Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. Bon lundi, en espérant que vous ayez passé un bon week-end. Moi, ça a été le cas. Je vous dirai peut-être pourquoi si vous êtes gentil dans les prochaines secondes. Chaque lundi, on a le plaisir de jaser avec Maître Marc Bellemare qui est là. Maître Bellemare, bonsoir.
Bonsoir, comment ça va?
Ça va très bien. Mon gars est champion du monde avec son équipe de hockey. Ils ont gagné le tournoi Saint-Isidore et sont très, très, très heureux. Et je suis un papa très fier.
Est-ce que t'as eu la Est-ce qu'ils ont eu à signer la bannière? Est-ce que ça existe encore, les bannières au hockey mineur?
Ils ont eu une petite bannière. Je ne sais pas s'ils l'ont signée. Ce que je sais, c'est qu'ils ont tous pris une photo avec la bannière. Là. Moi, j'ai pris photo avec cette bannière-là, la mère de mes gars, plus le frère de l'autre. Fait qu'on était les quatre sur la même photo. Ça fait des beaux souvenirs. Puis de voir ses enfants persévérer, être un peu dans le doute, mais ne jamais abandonner. Puis donner tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir remporter un match de hockey, il n'y a pas grand-chose qui vaut ça sur la terre. Je ne suis pas sûr que j'échangerais le souvenir que j'ai d'hier de mon petit gars qui remporte la finale du tournoi. Pas sûr que j'échangerais ça contre quelque chose dans le monde.
Ah, c'est fantastique. Puis c'est ça, c'est « We are the champions ». Puis plein micro, plein haut-parleur dans l'aréna, ouais. À tue-tête. Et c'est vraiment des moments magiques, mais... On a peine à imaginer ce que ça représente pour des enfants, des adolescents, de gagner des bannières, de gagner des tournois, de s'accomplir sur la glace dans un sport d'équipe. Le hockey est vraiment, à mon avis, le plus beau sport au monde, là, à cause de ce que ça demande comme énergie pour se déplacer, puis à cause du côté équipe. Là, on travaille en équipe, on fait des passes, on pense pas juste à soi, on pense à l'équipe, le coach qui fait de la motivation. La compétition, le plein air, le cardio, écoute, les enfants font du hockey, magnifique pour eux, puis magnifique pour toi aussi, puis je te félicite parce que il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui aiment mieux laisser aller leurs enfants avec un ballon dans un gymnase 12 mois par année, c'est plus simple, c'est plus facile, une paire de sneakers, une paire de shorts, puis c'est réglé. C'est sûr que les arénas, le hockey mineur, ça demande beaucoup plus de la part des parents de disponibilité, ça coûte plus cher, mais s'il y a des parents qui nous écoutent et qui doutent, là, je peux leur dire, moi, j'ai vécu tout ça avec mes enfants, puis je peux vous dire que le hockey au Québec, là, c'est vraiment magnifique. D'autant plus qu'on peut jouer dehors aussi. On peut les amener dehors à la patinoire du coin, exact, quelques mois par année pour prendre l'air. Alors, c'est juste du positif. C'est sûr qu'il y a des parents qui sont pas fins, mais ça, l'important, c'est de l'aider soi-même.
Oui, puis tu sais, en fin de semaine, j'étais très alerte là, parce que je voulais voir comment les gens se comportaient avec les arbitres. Puis j'ai été quoi 2 jours dans l'aréna, puis je peux vous dire que ça a relativement bien été. Là. Une petite décision là, qui a mis en rogne un des deux coachs qui voulait certaines précisions, mais sans plus. Mais tu sais, au-delà de la victoire, Maître Bellemare, c'est tout l'apprentissage que nos enfants font du monde dans lequel ils évolueront quand ils seront à l'âge adulte. Parfois, l'intimidation, parce que le joueur à côté, il est beaucoup plus gros, puis il décide d'aller dans le coin, aller chercher la rondelle à côté d'un gars qui est pratiquement 2 fois ton poids, parce que ça arrive souvent à cet âge-là, là, qui joue contre des gens qui sont un peu plus grands, un peu plus gros, ben de voir qu'ils sont capables de pallier à l'intimidation de la grosseur, puis qu'ils vont pareil, de voir qu'ils tombent à terre, puis qu'ils se relèvent, puis qu'ils patinent encore 2 fois plus vite parce qu'ils sont fâchés d'avoir perdu la rondelle. C'est un sport qui me permet de voir dans mon enfant que tu sais, on a tout le temps une crainte en tant que parent pour nos enfants, tu sais, comment ils vont évoluer plus tard. Ben moi, à travers ce sport-là, je suis capable de me dire que mes petits gars vont être capables de faire un petit bout, tu sais, correct à l'âge adulte, qui vont être capables d'avoir des mauvais coups, puis de se relever, puis d'essayer d'en faire peut-être un peu plus pour que ça fonctionne cette fois-là, tu sais. C'est au travers de la victoire ou au travers de la défaite, il y a tout le temps de l'apprentissage, puis ça, c'est d'une beauté. En tant que parent, moi, j'étais là en fin de semaine, je regardais mon gars, puis, tu sais, il a soulevé la coupe. J'avais une petite larme aux yeux. C'est mon petit côté faible, là, j'avais une petite larme aux yeux.
Ah, mais c'est magnifique. Puis, il faut comprendre aussi qu'il y a une forme de délégation de l'autorité à travers le hockey, à savoir qu'il y a un coach, il y a un gérant dans l'équipe. Donc, c'est pas toi, à moins que tu acceptes de l'être, mais si c'est pas toi, c'est d'autres parents qui font ça, qui ont la même ambition que toi, qui ont le même objectif que toi, de faire grandir leurs enfants sur la glace. Et t'as un arbitre aussi qui gère tout ça, puis qui va dire, ben là, t'as fait un mauvais coup, tu vas aller en punition, puis ostine pas, puis c'est ça, puis c'est le même que ça marche. Fait que t'as une forme de délégation d'autorité qui fait que l'enfant s'aperçoit qu'il y a des règles dans la vie. C'est pas toujours mon père qui me matraque, puis l'autorité vient pas toujours de la même personne, elle vient de d'autres personnes qui ont pas nécessairement intérêt à être méchants, et qui ont aucun intérêt à punir juste pour punir. Alors, il y a une forme d'introspection aussi qui est consécutive à ce genre d'autorité-là, ces figures d'autorité-là qui sont multiples. Donc, tu as l'école, tu as le coach, tu as le gérant, tu as l'arbitre, puis tu as le père, puis bon, la mère aussi, évidemment. Alors, c'est bon parce que c'est des signaux qui viennent de différentes personnes puis qui convergent généralement vers un peu toujours la même chose, c'est-à-dire respecte les règles si tu veux
Exact.
grandir en société. Puis les règles, quand tu as 8, 10, 12 ans, c'est rien par rapport à ce que tu vas vivre à 30 ans, tu
Non, c'est ça. Puis on était dans le truck hier soir, puis il me disait, tu sais, papa, l'arbitre a pris une mauvaise décision. Genre, ouais, il a pris une mauvaise décision. Comment tu fais pour dire qu'il a pris une mauvaise décision? Puis là, il m'a expliqué son point de vue par rapport à la décision de l'arbitre. Mais il a rajouté, c'est pas grave, papa, l'arbitre aussi, il fait partie du jeu, puis il a le droit de se tromper comme nous autres, on se trompe. Je me suis dit, waouh, tu sais, c'est lui-même, il a réalisé que l'arbitre pouvait prendre des mauvaises décisions parfois. Puis ça faisait partie du jeu, même si c'était choquant quand les mauvaises décisions étaient à l'encontre de notre équipe. Bref, cela dit, voilà pour mon petit côté, Papa Poule, là, ça a été un super de beau week-end. Vous, ça a bien été? Est-ce que vous avez travaillé ce week-end? Vous êtes reposé?
Non, j'ai pas vraiment travaillé, mais oui, j'ai vu mes enfants. J'en ai vu trois dans la même journée. J'en ai cinq au total. J'en ai vu trois dans la même journée samedi, dont ma fille qui est descendue de Montréal avec son petit bonhomme de 3 mois. Alors, ça a été une fin de semaine de famille, mais évidemment, les enfants grandissent, puis ils vivent pas nécessairement dans la même ville que toi, puis ils n'ont pas le même horaire non plus. Mais je peux te dire qu'en fin de semaine, là, j'en ai vu 4 sur 5. C'est quand même un bon score,
Ben oui,
hein?
ben oui. C'est une belle
Très
job.
content, très comblé.
C'est une belle job être grand-père. T'sais, on reçoit à la maison, on s'amuse, on les gâte, on a du plaisir. Puis après ça, une fois qu'ils sont partis, on dit ah,
Oui, c'est vrai, tu as
c'était une belle
raison.
journée.
C'est un autre monde. On n'a pas nécessairement le goût de recommencer au même point où on était quand on a élevé nos propres enfants, mais en même temps, on s'aperçoit que ça grandit, puis on peut jouer un rôle comme grands-parents aussi, amener un paquet de choses, la tenue à table, comment on parle aux gens, pas répliquer, etc. Encore là, c'est une forme de délégation d'autorité, parce que l'enfant a besoin de vivre dans un certain cadre, un certain monde où il y a des règles. Il n'est pas tout seul. Il faut qu'il apprenne à partager. Il ne faut pas qu'il soit égoïste. Il faut qu'il respecte les plus vieux. Il faut qu'il leur parle d'une certaine façon. Il faut qu'il se tienne à la table de telle manière. Puis toi, comme grand-père, tu as l'autorité pour le faire. Alors, tu le
Exact.
fais. Puis des fois, les parents qui ont un bout dans une toupette n'ont pas le temps de le faire. Alors, on est complémentaires en quelque part. C'est sûr que être grand-parent, c'est quand même. C'est une responsabilité, mais en même temps, il y a beaucoup de plaisir associé à ça parce qu'on les a quelques heures par semaine. T'as pas l'immense tâche de faire les devoirs, les leçons, les révisions, l'habillement, l'hygiène et tout ça. Alors, tu ramasses quand même les bons côtés.
Exact. Là, Maître Bellemare, là, ça me rassure que vous ne travaillez pas la fin de semaine parce que je suis inquiet. J'ai vu passer une dame la semaine passée dans les médias qui se plaignait parce que plus qu'elle travaillait, plus qu'on y enlevait sur son régime de pension de vieillesse. Là, j'ai pensé à vous. Maître Bellemare, on travaille tout le temps, 7 jours sur 7. Je veux dire, le gouvernement doit l'imposer à côté.
Non, mais c'est sûr, mais ça, c'est le bon côté. Qu'est-ce que tu veux, au Québec, on sait qu'on a un taux d'imposition probablement le plus élevé en Amérique du Nord, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a un bon panier de services aussi. Ce qui est toujours choquant, c'est de voir comment l'État dépense l'argent des fois, mais faut pas trop penser aux Kings de Los Angeles. Il faut penser à d'autres genres de dépenses qui pourraient peut-être nous servir un peu plus, mais c'est sûr qu'on a un gouvernement ici. Écoute, on est à gauche sur l'échiquier politique, là. Quand j'entends les gens dire que les Américains sont à gauche avec les démocrates, là, je trouve ça bizarre parce que nous autres, je pense qu'on a probablement le gouvernement le plus à gauche en Amérique du Nord, là. Même comparé à l'Ontario puis à l'Alberta, on est très, très à gauche avec des gouvernements qui interviennent dans à peu près tous les domaines de la société. Mais ça paraît au niveau des impôts. Puis quand j'entendais il y a quelque temps, un certain dimanche, il y a 2, 3 semaines, M. Legault, quand il est arrivé avec Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, pour dire, ben, vous savez, les conventions collectives, ça va coûter cher. Je me disais, tiens, 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 il a décidé de nous dire ça, lui-là, là, que les nouvelles conventions collectives, ça allait coûter de l'argent. Mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression que les gouvernements s'occupent pas trop de la question de savoir combien ça va coûter. Mais à un moment donné, ça nous arrive d'en face, puis le budget qui s'en vient, là, au cours des prochains jours, va nous montrer qu'on est dans le trou, encore une fois, de façon assez solide.
Mais ce
Puis,
qui m'avait,
en
ce qui m'a...
principe, Legault a eu notre vote parce que c'est un homme d'affaires, hein? Air Transat, sais, c'est un peu comme Trump aux États-Unis, qu'il y a beaucoup de gens qui lui font confiance parce que c'est un homme d'affaires qui a réussi à faire 5 piastres avec une pièce. Legault, c'est un petit peu ça. En 2018, on s'attendait à avoir un homme d'affaires enfin aux commandes de l'État, mais en réalité, il gouverne à gauche comme tous les gouvernements depuis 50 ans.
Bien, ce qui m'avait déplu de l'article, puis c'est souvent le constat qu'on fait quand on jase de ce sujet-là, t'sais, les gens qui ont 70, 80, 85, puis qui travaillent encore, on ne devrait pas les pénaliser parce que ces gens-là restent actifs tant au niveau cognitif qu'au niveau physique. Ces gens-là travaillent. On devrait les encourager à rester sur le marché du travail s'ils peuvent le faire parce que ça va les éloigner de l'hôpital.
Oui, mais entre toi et moi, Yannick, là, les gens, les personnes âgées, moi, le monsieur qui déchire mon billet à l'aréna ou au cinéma, là, puis qui a 75 ans, là, il ne gagne pas 100 000 par année. Là.
Ben non.
Mais c'est vrai que si tu as déjà des revenus de placement, tu as déjà des revenus d'intérêt sur les placements que tu as, tu retires ton RIR, donc tant par année, donc tu es imposé là-dessus. Peut-être qu'effectivement, ça peut être un frein, mais je ne sais pas. T'sais, à un moment donné, il y a une question d'équité fiscale, puis il faut que tu gagnes pas mal d'argent au Québec pour payer de l'impôt. Il y a quand même une bonne déduction de base, alors quelqu'un qui travaille au salaire minimum, en principe, n'aura pas grand-chose à payer.
Bien, c'est parce qu'on te pénalise, je pense que c'est au-dessus de 13 000 $ on te pénalise ta régie des rentes du Québec, puis après ça, ouais. On va tout calculer, tes CELI, puis tes REER, puis on va faire en sorte qu'on va essayer de t'en enlever le plus possible. On devrait encourager les personnes, tu sais, ça fait assez longtemps, sacrifice, que ces gens-là payent des impôts. On peut-tu juste leur dire, vous allez payer ce qui est juste et pas, on vous découragera pas, tu sais, c'est pas, on dirait que c'est compliqué de faire ça, et pourtant, ça devrait pas l'être, mais somme toute, moi, c'est dans ma tête, là. Je trouve que...
À partir d'un certain âge. On pourrait dire, par exemple, les gens qui ont 70 ans et plus, puis qui travaillent, ils ne payent pas d'impôts.
Ça serait 65. Ça serait 65. Ils paieraient leurs impôts. On ne ferait juste pas les pénaliser sur le régime de rente du Québec. On ferait juste pas les pénaliser. Parce que, tu sais, moi, si j'étais dictateur du Québec, parce que j'agirais en dictateur, dépasser 40 heures par semaine, il n'y aurait plus d'impôts prélevés. Dépasser, quand on est sur les prêts et bourses, là, si on est étudiant puis on veut travailler 80 heures ou 90 heures par semaine l'été pour être sûr et certain de se faire un bon fond pour passer l'hiver, ben on devrait pas être coupé sur les prêts et bourses. Puis les personnes âgées, à partir de 65 ans, payent leur dû pour ce qui est de l'impôt, mais pour le reste, on leur laisse ça dans les poches. Ils l'ont gagné, cet argent-là. On chercherait plus de la job tout le temps, on chercherait plus des employés tout le temps, tout le monde serait disponible. Un jeune de 22, 23, 24 ans qui rentre pour travailler à l'hôpital comme infirmier ou infirmière, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Ben, regarde, moi, ça me prend un fonds pour payer une maison. Je vais faire du 40, 50, 60, 70 heures par semaine, ça me dérangera pas. Mais là, ils se font tellement manger qu'ils se disent, regarde, ça vaut pratiquement un peu à peine de faire du travail supplémentaire.
Ouais, puis c'est une main-d'œuvre. Précieuse, les gens. C'est pas toujours des emplois tellement exigeants au niveau physique ou psychologique non plus. On sait qu'il y a à peu près quoi, 500 000 Québécois qui travaillent au salaire minimum déjà. Fait que ces gens-là travaillent beaucoup dans les services. Tu sais, moi, quand je vais m'acheter une paire de sneakers chez Sport Expert ou dans un autre commerce, la personne qui me sert, moi, ça a 72 ans, puis elle fait un grand sourire, puis elle me vouvoie, puis elle est polie. Je vais être bien content plutôt que de me faire servir en cabochon ou qu'il n'y ait pas de service pantoute. Des fois, tu arrives dans un département. Je nommerai pas le commerce, mais hier, je suis allé à Place Sainte-Foy, là. Je suis rentré dans un commerce de vêtements pour dames, là, avec ma copine, là. Puis, je te jure, là, il y avait 4 caisses disponibles. 4 caisses. Il y en avait une qui était fonctionnelle. Il y en avait 3 qui étaient fermées. Il y avait au minimum 35 personnes qui attendaient pour payer. 0 personne sur le plancher pour te conseiller. Ben, gars, ils ont perdu 300 piastres de vente. C'est juste ça. Non, mais regarde, écoute, puis à côté de ça, tu avais de l'autre côté du passage, tu avais un magasin de souliers où tu ne faisais pas 3 pieds à l'intérieur du commerce sans avoir quelqu'un qui venait te chercher pour te dire bonjour, est-ce que je peux vous aider? Alors, à un moment donné, engager du monde, mais c'est vrai que faudrait travailler pour amener ces gens-là. Il y en a beaucoup qui s'ennuient aussi.
Ben oui.
Puis qui ont 75, même 78 ans, qui s'ennuient chez eux. Il y a des veufs, il y a des veuves. Il y en a qui ont besoin d'air, qui ont besoin de rencontrer des gens. C'est sûr que si tu as des incitatifs fiscaux significatifs, au niveau des taxes ou des impôts, tu vas les amener sur le marché du travail, tu vas régler une partie de la pénurie de main-d'œuvre, puis tu ne seras pas obligé d'aller chercher ça au niveau de l'immigration. Tu vas avoir des gens là, de
Ouais.
l'autre bord de la rue qui vont venir travailler.
Surtout que tu vas
Tu as
les faire
raison.
travailler au niveau cognitif, tu vas les faire travailler physiquement, donc ils vont probablement s'éloigner de l'hôpital, tu sais, avec leur social et
Ouais,
tout
c'est
ça, ils vont
ça.
probablement s'éloigner de l'hôpital, puis on a grandement besoin de gens qui s'éloignent de l'hôpital ces temps-ci. Beaucoup de morts hein, dans les derniers jours, je ne sais pas ce qui se passe, là. Pourtant, il n'y a pas grand-chose, tu sais, la température est assez clémente, on n'est pas au début de l'hiver où il fait très sombre, on a perdu dans les derniers jours, on a perdu le frère de Pierre Houde, de Paul Houde, qui est décédé, il s'est fait opérer en début de semaine au cerveau, puis malheureusement, il n'a pas survécu à son opération quelques jours plus tard. Puis il y a aussi Brian Mulroney qui est décédé. Est-ce que vous l'avez connu personnellement, Brian Mulroney, ou ça
Non,
a toujours...
jamais.
Non.
Je ne l'ai pas rencontré. Jamais. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais c'est un gars qui a travaillé fort. Ouais. Écoute, les conservateurs avaient compris à ce moment-là qu'il y avait besoin des nationalistes québécois pour prendre le pouvoir. Puis c'est quand il a quand même obtenu une majorité de sièges dans tous les comtés. Et Mulroney, en 84, était allé chercher 58 comtés, alors qu'il y avait un seul député conservateur, c'était Rock LaSalle dans le comté de Joliette. Mulroney est allé chercher le 4 septembre 1984, 58 députés au Québec conservateurs. Il y avait deux, je me souviens qu'il y avait au moins deux députés souverainistes dans son équipe. Il y avait Marcel Mars puis Monique Vézina. Monique Vézina qui a obtenu un ministère. Donc, il faisait confiance aux souverainistes qui voulait participer à un effort de reconstruction du Canada au plan constitutionnel. C'était magnifique, mais il y avait des Anglais qui reprochaient de faire confiance à des souverainistes. Mais écoute, quand tu dis là que tu as au Québec 35-38 % bon an, mal an de souverainistes convaincus qui seraient prêts à voter oui n'importe quand, puis tu veux prendre le pouvoir au Québec, bien, il faut que tu fasses un clin d'œil aux souverainistes, il faut que tu leur donnes quelque chose d'intéressant pour qu'ils votent pour toi, parce qu'il y a un vote au fédéral de toute façon. Il avait compris ça, Mulroney. Et Harper aussi l'a compris par la suite. Il n'y avait pas de souverainiste, je pense, dans son cabinet, mais il y avait quand même des nationalistes. Et M. Poilievre, qui s'en vient tranquillement pas vite au Québec, là, je pense que c'est quelque chose qu'il devrait considérer, d'avoir quelque chose à offrir au niveau du Québec, peut-être en matière d'immigration, mais quelque chose d'intéressant à offrir s'il veut aller chercher des sièges. Puis je pense que c'est possible pour M. Poilievre d'aller chercher des sièges. Puis je suis convaincu que ce qui se dit actuellement par rapport à Mulroney, le succès qu'il a obtenu au Québec en 84, en 88, avec des nationalistes québécois, je pense que M. Poilievre va réaliser, à travers l'épreuve du départ de M. Mulroney, historiquement, qu'est-ce qui avait amené M. Mulroney à obtenir autant de succès au plan électoral, autant en 84 qu'en 88, au Québec. Et je pense que ça va porter fruit. J'espère, en tout cas.
T'sais, on s'entend que quand on écoutait Brian Mulroney, on entendait de l'élitisme un peu, mais c'est un gars qui est extrêmement respecté. C'est un gars que même si tu n'étais pas dans son camp, tu écoutais ce qu'il avait à dire, puis que tu respectais. Un genre de monument. Il n'y en aura plus de ces politiciens-là qui passeront à l'histoire comme étant des monuments. T'sais, je pense à Mulroney, mais je peux penser aussi à Parizeau, t'sais. Je peux penser à Bernard Landry. Ces gens-là étaient de forte stature, là, dans les médias, quand on les voyait, on est wow, t'sais, quel individu, quel homme. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, là.
Oui, mais il faut faire attention, Yannick, parce que quand la personne est disparue, surtout lorsque sa carrière politique s'est terminée depuis plusieurs années, on a tendance à idéaliser. Mulroney a fait des choses intéressantes, mais souvenons-nous qu'en 93, il a été élu en 84, il a quitté, je pense, en 93. Là, il a été remplacé, il y a une course à chefferie. C'est Kim Campbell qui a remporté la chefferie. Puis les conservateurs ont été, en 93, lavés complètement. Ils ont eu uniquement deux députés, Jean Charest au Québec, puis une autre en Nouvelle-Écosse. Alors, il y a eu un gros coup de balai donné au gouvernement de Mulroney en 93. C'est sûr que ces aspects-là, on les souligne moins de ce temps-ci. On souligne moins aussi le fait qu'à un moment donné, par la suite, M. Mulroney avait été blâmé par la commission Oliphant parce qu'il avait ramassé 225 ou 250 000 piastres cash dans une valise, une espèce de pot de vin qui avait été donné par Airbus à l'époque.
Ouais.
Alors, tu sais, ça, on en parle moins dans les cas de décès parce
Ben
qu'on est un peu pudique.
c'est ça, c'est
Quand
normal.
quelqu'un meurt,
Ouais.
on ne va pas aborder des aspects négatifs de sa carrière. Mais, tu sais, c'est vrai qu'on est porté. On est porté à idéaliser quelqu'un qui est décédé. Puis Mulroney, il y a des bons coups, puis c'est important de les rappeler. Mais dans un contexte de décès, c'est toujours un petit peu plus flatteur que la réalité, mais il ne faut pas y enlever non plus. Bon,
Est-ce
c'est
que
sûr
c'était
qu'il a travaillé
vraiment,
fort pour le Canada.
est-ce que c'était vraiment quand il nous est arrivé avec la TPS que ça a déplu à la grandeur du Canada?
Mais c'est sûr que la TPS, c'est un élément important. Oui, c'est vrai que c'était une grosse taxe, là. Tu avais la TVA en France, tu avais la TPS au Canada, qui était une taxe extrêmement importante. Après ça, tu as eu la TVQ. Ça a été des grosses taxes, mais la TPS remplaçait un paquet de taxes là, qui avaient été écartées au profit d'une TPS qui était une taxe globale. Puis souviens-toi de l'élection de M. Harper, qui avait été élu, je pense, en janvier 2006, minoritaire, et qui avait, parmi les cinq engagements qu'il avait pris, il y en avait un qui était de baisser la TPS d'un point, si mon souvenir est fidèle,
Oui, c'était ça.
et de faire une espèce de transfert au niveau des provinces. Mais ce qu'avait fait le gouvernement de Jean Charest à ce moment-là, c'est qu'il avait augmenté la TVQ d'un point. Donc, ça n'a pas paru dans nos poches, mais Harper avait quand même baissé la TPS d'1 %. Et le gouvernement du Québec en a profité pour améliorer ses finances à lui, mais il reste que la TPS, ça a toujours été quelque chose qui a choqué les Québécois, comme toutes les taxes d'ailleurs, mais ça, c'était une méga taxe. C'est sûr que ça n'a pas plu aux Canadiens, mais là, y a-t-il une taxe qui a déjà plu à quelqu'un, là? Jamais.
Passons donc à l'actualité, Maître Bellemare. Il y a quelque chose que le ministère du Revenu a mis en place, puis c'est incroyable de mettre ça de cette façon-là, parce qu'il y a énormément d'hameçonnage qui se fait tant par texto que par courriel, avec comme arrière-plan une lettre de Revenu Québec qui vous dit, bon, ben on vous doit 250 $, veuillez cliquer sur le lien, aller sur notre site, rentrer vos informations personnelles, puis appuyer sur Enter. Puis là, on se rend compte qu'on donne nos informations personnelles à des hackers. Et ça, là, il y en a depuis des années et des années de ce type de fraude-là, avec le fameux en-tête de Revenu Québec. Et Michel Girard du Journal de Québec, qui parle beaucoup d'économie, nous arrive avec un papier sur l'autorité des marchés financiers qui se fend en quatre pour mettre en garde les Québécois contre la fraude financière. Il a appris que l'Agence de revenus du Québec, elle, va inviter maintenant les contribuables à recevoir des notifications par texto et par courriel. C'est une décision un peu particulière, compte tenu du fait que il y a énormément de gens qui se sont fait avoir avec ce type de fraude-là.
Oui, mais ce qu'il faut comprendre, peut-être d'entrée de jeu, c'est de dire qu'il y a à peu près un Québécois sur deux qui craint, selon les sondages, qui craint, même plus que ça, je pense que c'est 58 % des Québécois, et j'en suis, qui craint comme la peste, le hameçonnage, le hacking de ses comptes, de ses adresses courriels, de ses comptes de banque. On a tous peur de ça. On sait qu'on est victime régulièrement de courriels frauduleux. On n'est pas trop fou, là. On les lit comme il faut, puis on voit bien que quand tu regardes l'adresse de retour sur le courriel, tu vois bien que c'est pas l'Agence de revenus du Canada, puis tu vois bien que c'est pas vraiment Hydro-Québec qui t'écrit, c'est Ticoune les Bobettes dans son sous-sol, là, qui va avoir tes informations. Alors, il y a beaucoup de. Effectivement, l'Autorité des marchés financiers travaille fort pour dire attention aux fraudes financières, donnez pas vos informations, les cartes de crédit le moins possible. Quand tu peux payer autrement qu'avec une carte de crédit, tu le fais. T'évites de donner ton numéro de compte puis tes coordonnées personnelles à tout le monde, surtout par texto et par courriel. Parce qu'à partir du moment où ils ont ton téléphone, évidemment, ils communiquent avec toi par texto. Tu reçois un texto qui dit, bon, on vous doit de l'argent, monsieur, voulez-vous cliquer ici puis nous rappeler? Bien, là, à ce moment-là, tu viens de donner beaucoup d'informations puis tu viens de montrer surtout que t'es un coco qui n'a pas peur de répondre à n'importe qui sur des informations personnelles. Alors là, M. Girard, qui est un économiste reconnu et respecté, et monte aux barricades, puis il dit que ça n'a pas de bon sens que le premier ministre, le ministre des Finances du Québec, à travers Revenu Québec, demande aux contribuables québécois de donner leur consentement à des textos et courriels dans la section 10 de leur déclaration de revenus 2023. On te demande ton consentement, on ne te l'impose pas, mais. Si tu as à répondre à ça, ben réponds pas, puis donne-les pas ton consentement à ce qu'on communique avec toi par texto et par courriel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hameçonnage avec une fausse identité de Revenu Québec. il y a beaucoup de fraudeurs qui décident d'utiliser le logo de Revenu Québec, qui est pas facile qui est pas difficile à imiter. Ils prennent le logo de Revenu Québec, ces gens-là, ils communiquent avec toi en disant, nous sommes Revenu Québec, pourriez-vous nous donner votre revenu de l'année passée? Pourriez-vous nous donner votre numéro d'assurance sociale? Pourriez-vous nous donner votre numéro d'assurance maladie? On veut vous envoyer 25 $ ou 5 000 $ ou 500 $ qu'on vous doit, comme si Revenu Québec envoyait de l'argent comme ça, c'est complètement ridicule. Mais c'est de l'hameçonnage. Et là, on profite, en se faisant passer par Revenu Québec, on profite de votre naïveté pour aller chercher d'autres informations, puis pour éventuellement rentrer dans votre vie personnelle à travers des informations personnelles. Et c'est quand même curieux que ce soit Revenu Québec qui fait ça. Puis M. Girard nous rappelle qu'il est fréquent que les arnaqueurs tentent de se faire passer pour des agents de Revenu Canada aussi, dans le but de leurrer, de soutirer des renseignements personnels et de l'argent auprès des contribuables vulnérables. Puis à partir de ça, non seulement ils vont vous dire on vous envoie de l'argent ou on va vous demander de leur en envoyer, mais alors soyez pas naïfs. Et ce que M. Girard vous propose finalement, c'est de répondre non à cette fameuse question sur votre déclaration d'impôt, parce qu'on sait que jusqu'au 30 avril, on est obligé d'envoyer une déclaration de revenus. Donc, à la section 10, la déclaration, c'est de répondre non finalement à ce qu'on communique avec vous d'une quelconque façon, que ce soit par téléphone, par texto ou par courriel. Je pense que c'est un bon conseil à donner aux auditeurs.
Ouais, j'aime beaucoup la finale du texte de Michel Girard, qui est un journaliste, mais qui de plus en plus fait des petites chroniques. Puis j'aime bien la finale quand il dit « Je recommande à François Legault et son ministre Éric Girard d'ordonner immédiatement à Revenu Québec de renoncer à cette opération des notifications par texto-courriel, et ce, à cause des vastes tentatives de fraude financière qui empoisonnent quotidiennement la vie des Québécois. Quand Revenu Québec a des messages à nous faire suivre, qu'il le fasse par courrier ou électroniquement par l'entremise de Mon dossier dans son site sécurisé. » Effectivement, on peut aller sur le site du ministère du Revenu puis avoir accès à notre dossier personnel. Mais à ce moment-là, on sait qu'on est dans notre dossier personnel quand on est directement sur le site du ministère des Revenus.
Absolument, tu as raison. Puis c'est dans le même ordre d'idée, c'est pas mauvais de rappeler est-ce que tu sais c'est quoi une adresse IP?
Ben, c'est comme l'adresse à la maison, mais pour mon ordinateur.
Oui, c'est ça, mais est-ce que tu connais ton adresse IP?
Je la connais pas par cœur, non.
Moi non plus. On ne connaît pas notre adresse IP, mais on a tous une adresse IP. Dès qu'on communique par courriel, on a une adresse IP. Dès qu'on paye des comptes, on a une adresse IP. Alors, c'est un jugement de la Cour suprême, c'est quand même pas rien, qui vient de tomber cette semaine et qui a déclaré que la police devait obtenir un mandat de perquisition pour obtenir ton adresse IP. Et l'affaire est assez simple. C'est un individu qui avait été accusé d'avoir fait des fraudes en ligne. Donc, c'est un individu de Colombie-Britannique, un homme lié à une affaire d'achat en ligne frauduleux. Donc, il avait fait à partir de son compte, de son adresse sur Internet, il avait fait des fraudes en 2017 en Alberta. Et la police avait demandé à une entreprise tierce de traitement de paiement de donner l'adresse IP. Parce que quand tu fais des achats en ligne ou que tu payes des comptes en ligne, la personne à qui tu payes ou la personne à qui tu vas envoyer un montant d'argent pour acheter des souliers ou pour acheter une planche à neige va avoir ton adresse IP. Donc, en tout cas, est capable à partir du paiement qui a été fait d'obtenir l'adresse IP. Et l'adresse IP est personnelle, parce qu'à travers ça, je suis capable de savoir que c'est ton adresse à toi, puis je suis capable de savoir que ça t'appartient. Donc, je vais avoir ton nom, ton domicile et des informations privées. Alors, la police avait obtenu l'adresse IP en s'adressant simplement à l'entreprise avec laquelle l'individu soupçonné avait conclu des affaires en ligne. Et lui, le gars, il a dit, c'est une atteinte à ma vie privée, c'est contraire aux chartes. Et vous n'avez pas d'affaire à aller voir les gens avec qui j'ai transigé pour avoir mon adresse IP. Et la Cour suprême lui a donné raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es soupçonné par la police d'avoir fait quelque chose de pas correct, ils ne peuvent pas aller voir Visa ou ils ne peuvent pas aller voir Vidéotron ou, je ne sais pas moi, l'Auto-Québec ou Hydro-Québec pour ton paiement de compte pour obtenir ton adresse IP, ils vont être obligés d'obtenir un mandat de perquisition. Un peu comme quand ils tapent la ligne téléphonique puis ils veulent te mettre sous écoute. Ça prend un mandat de perquisition. Il faut qu'il y ait un juge qui passe là-dessus et qui dise oui, policier, vous m'avez soumis des informations sur l'individu qui sont suffisantes pour qu'on puisse douter de lui au niveau de l'honnêteté, parce qu'on pense qu'effectivement, on a assez d'informations pour conclure qu'il a peut-être fait des fraudes en ligne. À ce moment-là, le juge va autoriser. Puis là, la police va pouvoir aller chercher ton adresse IP chez l'entreprise avec laquelle tu as correspondu. Mais ça va prendre l'autorisation d'un juge. La police ne pourra pas le faire directement elle-même. Moi, je trouve que c'est un jugement qui se tient. C'est sûr que c'est un peu choquant de laisser aller des criminels ou des fraudeurs sur cette base-là. Ça complique un petit peu le travail des policiers, mais ça veut dire que s'ils n'ont pas le droit d'aller n'importe où, parce que faut comprendre aussi, Yannick, que quand des enquêteurs ou des policiers se présentent chez Vidéotron ou chez Bell pour te demander ton adresse IP, qu'est-ce qu'ils font, les commerçants, les entreprises tierces avec lesquelles tu as fait affaire? Ils mettent un gros point rouge sur ton dossier, il y a des mentions qui sont notées, puis déjà, on te suspecte, puis on doute de toi. Alors, l'enquête, tant que tu n'es pas accusé, puis tant que tu n'es pas condamné, ben, tu es présumé innocent. Alors, commencer à salir ton nom en allant magasiner auprès des entreprises tierces pour obtenir ton adresse IP, ça peut porter atteinte à ta réputation. C'est pour ça que c'est des informations sensibles et la police peut avoir accès à l'information, mais en autant qu'elle a un mandat de perquisition. Alors, c'est un contrôle judiciaire de l'activité policière. Puis je trouve que dans le contexte où tout le monde va un peu fouiller dans ton dossier, puis tout le monde a un peu accès à tout, puis dans le contexte où il y a beaucoup de fraude sur Internet, je trouve que c'est là une mesure intéressante que la Cour suprême vient d'imposer aux policiers.
Mais le gars s'en tire quand même qu'il y avait 14 infractions, parce qu'au départ, il avait été reconnu coupable à 14 infractions en matière de vol, puis rendu en haut, ben, il est libéré de ces 14 infractions-là. C'est un
C'est
peu
choquant.
particulier. Ben oui.
C'est choquant là-dessus, je comprends. Mais tu sais, là, il y a un gars qui va s'en sortir. Probablement qu'il a, ben, il avait déjà été condamné par des tribunaux inférieurs parce que
Ouais.
les juges avant avaient dit la police a le droit de faire ça. La Cour suprême dit non. Donc, compte tenu que les condamnations ont été obtenues sur la base d'informations qui ont été obtenues illégalement, les condamnations sont cassées. C'est vrai. C'est vrai que c'est choquant. Mais en même temps, ça amène une certaine protection parce que les policiers, des fois, peuvent avoir des soupçons qui sont pas fondés. Ça veut dire obtient un mandat de perquisition. Si la police a des informations suffisantes, raisonnables, comme quoi tu as fait un mauvais coup, ils vont l'obtenir, l'adresse IP. La Cour suprême ne dit pas que l'adresse IP est inaccessible. La Cour suprême dit qu'avant d'aller voir des fournisseurs et de dire que Yannick a peut-être une mauvaise vie, qu'il a peut-être fait des fraudes, avant ça, il faut passer par un juge qui va regarder la qualité des preuves pour être sûr que ce n'est pas simplement une partie de pêche où on va aller chercher plein d'informations, on va salir ton nom un peu partout. Parce que faut comprendre que les personnes avec qui tu transiges, une carte d'achat en ligne, les paiements de compte que tu fais en ligne, puis tout ça avec des tierces compagnies, c'est un peu ton mode de vie. Puis ces entreprises-là sont extrêmement influentes. Et ils commencent à avoir des doutes parce que la police enquête sur toi, ça peut mener loin, puis ça peut faire en sorte que ton nom va être barré dans certains cas pour des mauvaises raisons. Fait que c'est un critère de plus, mais c'est vrai que M. Andrei Bykovets s'en est tiré sur cet argument-là, malgré les 14 infractions qu'on lui reprochait. Ouais.
Maître Bellemare, on parle de sécurité routière, puis le prochain article dont on va vous faire part me laisse un peu perplexe. Je savais que on pouvait être condamné ou déclaré coupable de conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies. Régulièrement, on parle d'alcool, régulièrement, on parle de drogue. Est-ce qu'on pourrait parler de fatigue? Et dans le cas où on parle de fatigue, advenant le cas où cette personne-là qui est extrêmement fatiguée prend son véhicule et fait un accident et tue quelqu'un, est-ce que cette personne-là pourrait être accusée de, je sais pas moi, d'un autre crime, de négligence criminelle ayant causé la mort?
Il y a trois types d'infractions qui pourraient faire l'objet d'accusations dans le cas où vous conduisez de façon, au moment où vous êtes très fatigué, tellement que ça va altérer votre capacité de conduire. D'abord, la conduite avec faculté affaiblie. On a souvent tendance à penser que la conduite avec faculté affaiblie, c'est juste l'alcool, c'est pas vrai. Ça peut être la drogue, ça peut être la fatigue aussi. Les facultés affaiblies, Il y a le 0,08 pour l'alcool, mais les facultés affaiblies, c'est un concept qui est assez large pour inclure la fatigue importante, qui altère, en autant qu'on peut prouver que cette fatigue-là a altéré ou diminué ta capacité de conduire. Il y a aussi la négligence criminelle et la conduite dangereuse. Alors, ici, on a un cas où une Montréalaise a été blessée et même tuée, une cycliste. Et au moment où l'événement est survenu, la dame, paniquée, a dit qu'elle était trop fatiguée pour conduire, qu'elle allait chercher un café pour se donner un petit remontant. Et la déclaration a été faite auprès d'ambulanciers, auprès de témoins. La dame qui conduisait son Hyundai Accent a percuté la cycliste de 50 ans et on l'a accusée de conduite dangereuse, conduite avec faculté affaiblie et négligence criminelle causant la mort contre la cycliste.
Ouais, c'est la première
Alors
fois.
là, la question qui se posait devant le tribunal, c'était de savoir, est-ce que les déclarations spontanées de l'automobiliste qui a admis à un peu tout le monde qui était là, un peu sous le choc, est-ce que les déclarations spontanées, j'étais fatigué, je m'endormais, j'aurais pas dû conduire. Bon, alors elle a fait un certain nombre de déclarations spontanées après l'événement et son avocat a demandé au tribunal d'écarter ces déclarations-là comme n'étant pas pertinentes ou recevables dans la preuve. Le juge n'a pas condamné la dame encore. Mais il a dit, ces déclarations-là sont pertinentes et elles doivent faire partie de la preuve et on va devoir en tenir compte à l'intérieur de l'ensemble des considérations. Moi, je trouve que c'est correct. C'est comme si tu blesses, tu conduis en auto, puis à un moment donné, tu frappes quelqu'un, tu blesses quelqu'un, tu es impliqué dans un accident. Les ambulanciers arrivent, tu es un peu sous le choc, puis tu dis, j'aurais pas dû prendre ma quatrième bière à soir, tu sais, ou ben non. Je n'aurais pas dû fumer comme j'ai fumé chez mon chum. Tu sais, tu fais une déclaration qui t'incrimine. C'est sûr que c'est pertinent, là. Et la question de la fatigue, évidemment, ce n'est pas parce que la personne a dit « j'étais trop fatigué, j'aurais pas dû conduire, etc. » que c'est nécessairement, ça va nécessairement mener à une condamnation parce que le juge peut finalement décider que, bon, il n'y avait pas d'éléments objectifs de fatigue. Puis cette femme-là a décidé ça sous l'impact de l'accident, sous l'impulsivité. Je ne sais pas comment ça va aboutir, mais c'est sûr que les déclarations post-accident, spontanées, libres et volontaires, dans le contexte d'un accident, qui peuvent témoigner d'une certaine altération de ta capacité de conduire, sont pertinentes et je trouve que c'est un bon jugement qui a été rendu
Ouais.
ici.
La femme qui a frappé la cycliste, c'est probablement endormie parce que dans son témoignage, elle dit, je me suis réveillée dans le fossé. Elle a pris sa dose prescrite d'Ativan ce jour-là avant de prendre le véhicule. Elle a dit qu'elle était fatiguée le matin où elle s'est levée et elle n'avait pas bien dormi la nuit dernière. Donc, mais moi, ce genre d'accusation-là, pour ce qui est de la fatigue au volant, c'est la première fois depuis que je fais de la radio, donc depuis 2006, que je vois ce type d'accusation-là. Je savais que c'était possible parce que j'avais entendu parler régulièrement des policiers qui nous mentionnaient que facultés affaiblies, c'est pas juste l'alcool et la drogue, il peut y avoir aussi la fatigue. Mais de le voir tel quel, c'est la première fois que je vois ça. Puis ça doit pas être énormément plaidé là, à grandeur du Québec, là, facultés
Non, c'est pas
affaiblies.
plaidé, Yannick, parce que c'est extrêmement
Ouais,
rare
c'est ça.
qu'une personne va l'admettre. Puis en dehors de l'admission, en dehors de la confession de la personne, spontanée, contemporaine à l'événement, libre et volontaire, assumée, en dehors de ça, c'est extrêmement difficile de prouver la question de la fatigue. Puis bon, là, il y a une question de médication là-dedans. Est-ce que l'Ativan a un effet d'endormissement? Est-ce que ça peut assoupir possiblement? Mais il reste que cette dame-là, dans sa déclaration spontanée, savait, était consciente qu'elle était fatiguée, peu importe que ce soit la médication, peu importe que ce soit le café ou quoi que ce soit qu'elle a consommé, elle savait qu'elle était fatiguée, puis en chemin, elle allait chercher un café pour essayer de se donner un peu de vigueur. Fait que c'est sûr que c'est une preuve intéressante, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui va faire ça, puis la personne peut le penser sans le dire. Puis dans ce cas-ci, elle l'a dit non seulement à plein de témoins qui ont accouru sur les lieux du drame au moment de l'impact, mais elle l'a dit aussi en présence d'ambulanciers, donc de personnes qui sont en principe crédibles et qui sont pas là pour apporter des faussetés. Alors, c'est pour ça que c'est pas souvent invoqué, parce que pour prouver l'état de fatigue, c'est sûr que si la personne s'est endormie au volant, c'est un élément qui montre qu'elle était fatiguée, c'est sûr. Mais là, cette femme-là avait des regrets, puis elle était consciente du fait qu'elle n'aurait pas dû conduire parce qu'elle était physiquement et mentalement épuisée. Alors, je pense que c'est certainement un élément qui va favoriser la couronne, le DPCP, puis le DPCP a eu raison de se battre pour ça, mais c'est un précédent intéressant parce que ça ouvre des portes à l'admissibilité d'une preuve qui est quand même pas une preuve externe, qui est quand même un aveu de la personne au moment où l'accident survient. Donc, de se priver de ça, je pense que ça aurait été dommage.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST. Vous êtes là-dedans, ça ne va pas nécessairement bien. Communiquez avec bellemareavocat.ca. On fait une très courte pause et on vient tout de suite. Marceau, le soir. Le soir. Bonsoir avec Maître Marc Bellemare. On parle de dossiers à chaque lundi et Monsieur Bellemare emploie des mots parfois très forts quand il m'envoie des textos pour me parler des sujets qu'il aimerait aborder ce soir. Il a dit « Yann, on va aussi parler ce soir des Moses de délai de la CNSST et de la SAAQ. Il y a beaucoup d'accidentés qui perdent des droits parce qu'ils ne sont pas respectés. C'est-tu tant de délais que ça, Maître Bellemare? »
Ah oui, puis écoute, j'ai reçu un client il y a 2 semaines au bureau qui a été victime d'un accident de travail dans les années 90. Blessure, fracture, hospitalisation, arrêt de travail, changement de travail. Il n'a jamais réclamé à la CNSST. À l'époque, c'était la CSST. Il n'a jamais réclamé, mais je dis là, tu vas m'expliquer pourquoi, en présence de fracture, de blessure, d'hospitalisation, tu n'as pas réclamé. Il dit, c'est parce que mon boss ne voulait pas. Ouais, mais j'ai dit, ton boss ne voulait pas, c'est... Ton boss peut être en infraction, mais ce n'est pas à ton boss à faire la réclamation. C'est à toi à faire la réclamation, puis c'est dans les 6 mois. Je n'en revenais pas. Alors, le gars est venu me voir parce que là, sa blessure s'est aggravée. Ça fait 20 ans que c'est arrivé. Là, il est pire. Là, il ne peut pas travailler. Là, il est condamné à de multiples chirurgies, multiples traitements. Et il n'y aura pas de CSST. Bien, je dis, écoute, si tu n'as pas réclamé à l'époque, il y a 20 ans, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. Aujourd'hui, c'est pas plus accepté parce que là, tu as une aggravation d'un état antérieur pour lequel tu n'as pas réclamé. Si l'état antérieur n'est pas accepté, l'aggravation de cet état-là ne l'est pas plus parce que c'est l'accessoire du principal. Le principal n'existant pas, l'accessoire n'existe pas non plus. C'est malheureux, mais je n'ai pas pu l'aider. Et donc, retenez que si vous avez un accident de travail, vous avez 6 mois. Vous avez le droit d'aller voir le médecin. Vous avez le droit de vérifier avec lui toute l'importance de la blessure, mais 6 mois à partir de l'accident. Un décès, CSST, c'est la même chose. Si quelqu'un est décédé, vous êtes de la famille, vous êtes conjoint, vous avez des enfants, vous avez un délai de 6 mois pour réclamer à partir du décès. C'est pas des délais de rigueur. T'sais. Le juge peut toujours accepter que, ouais, tu as eu un accident, tu as perdu conscience, tu as fait du coma, tu es ding-ding depuis ce temps-là, tu as des problèmes à te souvenir, à t'organiser. Il y a toujours des raisons qui peuvent permettre de présenter une réclamation hors délai. Mais c'est sûr que si tu arrives 3, 4 ans, 10 ans plus tard, ça risque d'être refusé. C'est dommage.
Il y a des gens...
Ça, c'est pour un accident.
Ouais. Il y a des gens qui se sentent mal de se blesser au travail puis ils veulent pas causer de problème avec leur employeur. Mais qu'est-ce que ça a comme impact quand il y a des employés qui se blessent là, pendant qu'ils travaillent? Qu'est-ce que ça a comme impact concret chez l'employeur pour la CNSST? C'est l'augmentation des primes d'assurance?
Oui. Écoute, les employeurs du Québec payent une assurance qui s'appelle la CNSST. C'est pas le travailleur qui paye pour la CNSST, c'est l'employeur. Donc, il y a plus de 100 000 employeurs au Québec, entre 100 et 200 000, dépendant des années, qui payent une cotisation chaque année. Moi, je paye comme avocat un montant chaque année. Je paye pas cher parce que dans le bureau d'avocat, en moins de t'enfarger dans un fil d'un ordinateur ou dans une corde de porte, tu n'as pas bien de risque de te blesser. Mais dans les secteurs comme les mines, les transports, la construction, là, il y a des primes qui sont importantes. Et c'est pour ça que les employeurs conteste. Puis certains employeurs vont faire des petits fling-flang, tu sais, pour pas que ça soit rapporté, parce que les cotisations annuelles qui sont payées par les employeurs sont influencées par le nombre d'accidents qui surviennent dans leur entreprise et la durée de l'arrêt. Alors, c'est sûr que si tu es une entreprise de construction, puis tu as 25 travailleurs qui se blessent dans l'année, tu vas payer plus cher que s'il y en a trois qui se blessent dans l'année. Fait que des fois, les employeurs vont dire aux travailleurs, ben écoute, reste chez vous, là, déclare pas ça à CSST, je vais te payer ton salaire, je vais te payer ton chiro, je vais te payer ton physiothérapeute, puis dans 3 mois, tu reviendras, puis je vais te reprendre à mon emploi. Ça, c'est la pire affaire. Parce que non seulement c'est illégal, mais si vous êtes blessé et que vous conservez des séquelles de ça, et que vous laissez aller le délai de réclamation de 6 mois, dans 3 ans, il va être trop tard pour réclamer. Et vous ne serez jamais capable de prouver que l'employeur vous a incité à ne pas réclamer, parce que lui, il va dire le contraire, évidemment, il a beau jeu. Il dit, moi, je n'ai rien demandé, puis je n'ai rien exigé. C'est lui qui a voulu continuer, puis c'est lui qui a choisi de ne pas réclamer. Alors, pensez à l'avenir. Pensez pas à l'immédiat. Pensez à l'avenir. Et souvent, les jeunes, 25-30 ans, 6 pieds 2, 300 livres, 250 livres de muscles, ils vont dire, je vais récupérer de ça, je ne ferai pas de trouble avec mon employeur, puis je vais garder ma job, donc je ne réclamerai pas CNSST. J'ai gagné une cause, moi, il n'y a pas tellement longtemps, dans la région de Montréal, où j'ai réussi à aller chercher un accident qui était survenu 4 ans avant. Donc, le gars était hors délai 7 fois parce qu'il y avait eu des menaces de son employeur s'il réclamait. J'ai réussi à le prouver. Et à ce moment-là, le juge a considéré que les menaces avaient été suffisamment sévères, perte d'emploi potentielle, pour que le gars ne réclame pas avant 4 ans. Mais disons que c'est des cas exceptionnels, il ne faut pas trop jouer avec le feu.
OK. Dernier sujet de la soirée, Maître Bellemare. On parle d'une histoire qui s'est passée dans un village des Laurentides. C'est de toute beauté. Une dame qui était à la bibliothèque municipale, qui est située dans l'hôtel de ville. C'est une dame qui fréquente régulièrement cet endroit-là. La dame s'appelle, c'est joli, Marguerite Guindon. Et elle a de la misère à se déplacer. Elle a une canne et elle devait monter des marches. Et rendue en haut des marches, la dame se serait enfargée dans le surtapis qui se trouve en permanence à cet endroit-là. Et elle aurait été projetée au sol sur une distance de 5 pieds. Donc, on parle d'une méchante débarque pour une dame d'âge mûr. À cet âge-là, si vous vous plantez, ça se peut qu'il y ait plus de dégâts que si vous vous plantez quand vous avez 15 ans. Et dans son cas, elle, les deux fémurs fracturés, déchirure des tendons, du tendon de la main gauche, pardon, est maganée comme pas possible. Et la retraitée a décidé de poursuivre la ville en question.
Oui, très bon, très bon. Alors, ça veut dire que vous savez, le test dans toutes ces causes-là, chute, je me sens enfargé dans le tapis, il y avait une boîte que je n'ai pas vue. J'ai vu, il n'y a pas tellement longtemps, Yannick, ici en consultation, une dame qui était dans un magasin d'une chaîne d'alimentation, une épicerie. À un moment donné, elle est en train de regarder trois, quatre affaires, un étalage, puis là, il y a quelque chose qui est tombé dessus. Alors, bon, alors ça ouvre la porte à une forme de responsabilité, parce qu'en principe, quand tu vas à l'épicerie, c'est pas pour te faire assommer par une étagère instable ou par un chariot qui est fou, là, qui a plus de conducteur. Alors, il y a toutes sortes de situations où une faute peut causer un dommage corporel, que ce soit un traumatisme psychologique ou une faute physique. Mais dans tous les cas, vous avez un délai de 3 ans pour réclamer. Ça, il faut le comprendre, même contre les municipalités, pour un dommage corporel. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 3 ans. Il faut le faire le plus rapidement possible, dès que les dommages vont être connus. Mais ce n'est pas parce que tu tombes en quelque part que c'est nécessairement la responsabilité de la personne. Comme cette dame-là, qui s'est enfargée dans le tapis, le fait de tomber à cet endroit-là n'engage pas nécessairement la responsabilité. Encore faut-il prouver la faute. Et pas n'importe quelle faute, parce que si le tapis est bien installé puis tu t'enfarges dedans, le juge pourrait dire, on m'a pas prouvé qu'il y a eu une négligence ou qu'il y a eu une faute. Mais cette femme-là était capable de prouver que le tapis était dangereux. Une mauvaise installation. Installation dangereuse. Donc, omission de doter les lieux d'une rampe courante suffisamment longue pour pallier au risque de chute. C'est un peu ça que le juge a considéré. Alors, je le répète encore, si vous êtes capable d'avoir des témoins de comment le tapis est organisé, parce qu'en cours, c'est ça qui va se passer. Le juge ne regardera pas d'abord les conséquences de l'événement. Il va comprendre que madame s'est cassée les deux fémurs. La question qu'il titille, lui, c'est où est la faute? Et cette faute-là, on va la prouver par des images. Si on a eu la bonne idée de prendre une photo, on va la prouver par un extrait du tapis, si on est capable de le conserver. On va être capable de le faire à partir de témoins qui étaient là au moment où la chute est survenue. C'est certain que s'il y a eu d'autres personnes qui sont tombées dans les mêmes conditions, c'est encore pire. Mais problème, c'est souvent une question de preuve. Parce que les gens vont décider d'aller consulter 3, 4 mois après quand ils sortent de l'hôpital. Puis là, on n'a pas de preuve que le tapis était mal organisé. Fait que là, tu risques d'arriver en cour. Toi, tu dis le tapis était dangereux, il était retroussé. Le propriétaire avec le concierge puis l'installateur du tapis vont venir dire pantoute, le tapis était parfait, madame, c'est juste qu'elle n'a pas regardé où qu'elle marchait. Alors, dans ce genre de dossier-là, souvent, c'est difficile. Et je dirais ceci en plus, c'est que souvent, les gens vont envoyer des factures au propriétaire des lieux sans passer par un avocat. Et le propriétaire des lieux va envoyer ça à son assureur. Puis là, l'assureur qui a intérêt à ne pas payer, il va aller rencontrer les gens chez eux. Bonjour, madame, comment ça va? Puis là, il va leur jouer du violon. Ben, lui, il ne travaille pas pour la madame, il travaille pour l'assureur. Il est l'assureur de la compagnie que tu veux poursuivre. Là, il va te faire remplir une déclaration de 2, 3 pages que tu lis à peu près pas, écrite à la main à moitié lisible. Puis dans cette déclaration-là, souvent, on va essayer de te faire dire que tu étais mal chaussé, que tu n'as pas trop regardé, que tu étais pressé, que tu avais d'autres commissions à faire, et puis que tu n'as pas vraiment regardé comment le tapis est organisé. À ce moment-là, ça peut nuire à tes chances d'obtenir gain de cause devant le tribunal. Ne signez rien. Ne signez rien avec un ajusteur d'assurance qui n'est pas de votre côté, qui n'est pas un ami, qui travaille pour votre adversaire, parce que ça pourrait tuer votre cause. Si jamais un avocat arrive là-dedans, puis vous avez commencé à placoter, puis à tout raconter, puis des fois c'est même enregistré sur un tape, des fois c'est une vidéo en plus, vous pensez que la personne va travailler pour vous parce qu'elle vous dit, ben, donnez-moi de l'information, madame, puis on va vous payer. Puis en bout de la ligne, il ne paye pas, puis l'avocat va se servir de cette déclaration-là contre vous. Alors, conservez des images du tapis ou du lieu où vous êtes tombé, du trottoir où vous êtes tombé, de la glace qu'il y avait. Conservez des images si vous êtes capable. Avec des téléphones, aujourd'hui, c'est facile de prendre des photos. On n'est pas dans les années 60 où on n'avait rien des mains. Là, on a des téléphones pour prendre des photos spontanément, hein, et ne signez rien avec l'assureur avant de consulter un avocat qui va vous dire comment procéder pour augmenter, évidemment, vos chances d'obtenir un procès équitable et une conclusion favorable.
On est un vieux couple de radio, puis je me souviens encore de votre recommandation pour les gens qui tombent à des endroits, documenter le plus possible les appareils photos, les témoins, vos vêtements, vos bottes. Essayez de
Gardez vos
documenter le
bottes.
plus possible. Comment? Ben oui, il faut garder les bottes, il faut garder les bottes.
Je vais te dire, souvent, les gens accordent énormément d'importance aux blessures. Ils arrivent au bureau avec 3 quarts de pouce de papier, les factures de médicaments, les chiros, les physiothérapeutes, l'hôpital, les reçus de parking. Ils ont tout ce qu'il faut pour la blessure. Ils n'ont rien pantoute sur l'événement. À part de dire, ben, je suis tombé parce que c'était glissant. Ben là, c'est un peu là, mal donné, là. Tout se joue là. Parce qu'il n'y a pas une scène, il n'y a pas une condamnation possible, à moins de prouver l'insouciance, la négligence, la faute de la personne qui était responsable des lieux où vous avez chuté.
Maître Bellemare, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous chaque lundi. Donc, je vous souhaite de passer une belle semaine, puis on se rejase lundi prochain.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne semaine.
Merci. Nous, on se laisse là-dessus. Je
Bye-bye.
vous souhaite de passer une belle fin de soirée à vous aussi. Et on se rejoint demain, 11 h, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci. Bye-bye.
Marceau le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec, qui vous offre un monde de possibilités. L'Europe, le Sud, des croisières et même des forfaits à Disney. Voyage Aquaterra Lévis, Québec.
Swing la